Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous allons lire maintenant les textes en vue de la prédication. Donc le texte principal, il se situe dans l'épître de Jacques. Ce sera à proprement parler le chapitre 1, versets 19 à 21, mais on lira déjà depuis le verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Et on va revenir un petit bout en arrière dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et on lira les versets 26 à 32. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Et on fait cette fois-ci un grand pas en arrière pour aller dans le prophète Jonas, au chapitre 3. Enfin, un grand pas dans le temps. Dans votre Bible, ce n'est pas un si grand pas que ça, mais dans le temps, oui. Donc Jonas, on va au chapitre 3, pardon. Et puis on va lire depuis le verset 10 jusqu'au verset 4 du chapitre 4. Jonas, chapitre 3, verset 10. « Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » Donc on se trouve après que Jonas soit allé prêcher à Ninive. « Cela fut très mal pris par Jonas, et se fâcha, qui se fâcha. Il prit à l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. » « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de te fâcher ?»
Ah, tout d'abord, merci particulièrement pour vos prières. C'est grâce à cela que je suis là aujourd'hui. Nicodème ne comprenait rien quand Jésus lui disait qu'il fallait naître de nouveau. Parce qu'il ne comprenait pas que nous devions être engendrés par la parole de vérité. Et cet engendrement, c'est l'Esprit Saint qui l'effectue. Et nous comprenons encore aujourd'hui que nous avons besoin de cet engendrement, de cette œuvre du Saint-Esprit, afin que la parole agisse en nous. Afin que soit nous soyons engendrés, ou nous soyons encouragés après avoir été engendrés. La Bible, la parole de Dieu, est une succession de livres bibliques qui nous sont parvenus au travers de l'histoire. Tout d'abord, 39 livres dans l'Ancien Testament, et ensuite 27 livres dans le Nouveau, ce qui fait 66 en tout. Jacques, que nous étudions ensemble, en dehors des derniers dimanches du mois où nous suivons un évangile, Jacques est sûrement le premier écrit du Nouveau Testament, comme nous l'avons déjà vu. Et il commence son épître par nous parler de la foi dans les épreuves et la tentation. Et nous avons pu voir dans ce thème pourquoi les épreuves sont un sujet de joie. C'est sa première thèse d'ailleurs qu'il dit dans cet épître. Nous avons pu voir aussi quand et comment demander la sagesse. Nous avons aussi vu de quoi se glorifions, de quoi nous sommes appelés à nous glorifier lorsque nous sommes dans l'épreuve de la pauvreté ou de la richesse. Et face aux épreuves et aux tentations, nous avons pu constater que ce qui vient de Dieu est toujours bon, il ne nous pousse jamais au mal. C'est un élément fondamental qu'on a vu la dernière fois. Et nous entrons maintenant dans une nouvelle partie de cet épître de Jacques. Hein, selon le plan que vous avez aussi au dos des petites feuilles ici, nous arrivons dans une nouvelle partie de Jacques. Cette partie s'intitule « La mise en pratique démontre la foi ». La mise en pratique démontre la foi. Une foi qui ne se montre pas en pratique n'est pas une foi vivante. Donc pas une foi existante, mais une foi imaginée. Une foi qui ne se montre pas en pratique n'est pas une foi vivante. Donc pas une foi existante, mais une foi imaginée. Et nous verrons 6 parties dans ce thème de mise en pratique qui démontre la foi. Et aujourd'hui, nous entrons dans la première partie. Nous nous arrêterons particulièrement sur quelques versets qui parlent, c'est vrai, comme le disait Marc, de la colère de l'homme. Et je vous donne déjà la thèse de cette prédication basée sur Jacques 1, 19 à 21. La voici. La foi vivante et la promptitude à colère ne sont pas compatibles. La foi vivante et la promptitude à la colère, ou la rapidité à la colère si vous voulez, ne sont pas compatibles. Voilà pourquoi j'ai intitulé la prédication « Lent à la colère ». Alors Jacques invite ses frères bien-aimés à réfléchir. Il vient de dire, vous pouvez regarder avec moi dans Jacques 1, au verset 18, hein, que Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il veut ainsi nous faire entrer dans la manière de vivre qui manifeste cet engendrement. Cette vie que Dieu a placée en nous, cette foi vivante qui manifeste ce que Dieu aime et qui caractérise sa nouvelle création. Nous pourrions prendre du temps pour parler de ce qu'est toute la transformation que Dieu a faite extraordinaire. Nous l'avons en arrière-plan et nous voulons la garder avec nous. C'est très important. Et notre premier point développera ce que Jacques nous enseigne à être lent et ce que nous devons rejeter, ce qui manifestera une foi vivante. Notre deuxième point s'arrêtera sur ce que nous devons être rapides à faire et ce que nous recevons lorsque notre foi est vivante. Donc le premier point, ce que nous sommes appelés à être lents. Et deuxième point, ce que nous sommes appelés à être rapides à faire ou à vivre. Alors commençons par notre premier point que j'intitule « La lenteur de la foi vivante et ce qu'elle rejette ». Alors j'aimerais relire avec vous les versets 19 à 21 dans Jacques 1. Donc Jacques 1, 19 à 21. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Alors, sortons déjà simplement ensemble de ce texte les quelques éléments qui parlent de ce que nous sommes appelés à être lents et à rejeter. Si vous regardez ces 3 versets, que voyons-nous? Moi, j'en vois 4. 4 choses. Donc, on doit être lent et rejeter. La première, lent à parler. La deuxième, lent à la colère. Et d'ailleurs, la colère est décrite au verset 20. On parle ici de la colère de l'homme. Vous verrez, je ferai une différence. Il y a la colère de l'homme et la colère de Dieu, ce ne sont pas les mêmes colères. Troisièmement, rejeter toute souillure. Et quatrièmement, rejeter tout excès de méchanceté. Voilà les 4 éléments que nous trouvons dans ce texte. À être lent et à rejeter. Et il y a un lien d'ailleurs entre ces 4 choses. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour développer le sujet des paroles, d'être lent dans les paroles, que nous développerons au chapitre 3 particulièrement, puisque Jacques va reprendre cela et il parlera de la langue. On parlera beaucoup des paroles à ce moment-là. Jacques écrit un peu par rebondissement. Il parle d'un sujet, il rebondit, etc. Ici, on a quelques éléments sur lesquels il rebondit, mais la parole, on y viendra. Donc, ce n'est pas que je veux l'oublier, c'est qu'on la développera. Je dis simplement un proverbe par rapport aux paroles. Dans Proverbe 10-19, il est dit « Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. » C'est déjà tout un message, en fait. « Avec beaucoup de paroles, l'homme ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. » Nous pouvons aussi dire que les paroles sont très souvent exprimées lorsque la colère est exprimée. Que ce soit des paroles audibles ou des paroles dans le cœur de la personne en colère. Et c'est le sujet de la colère qui est souligné ici par Jacques, parce qu'il prend même le temps d'expliquer de quelle colère il s'agit. Et par le rejet que nous devons avoir, il souligne en fait une mauvaise colère qui est remplie de souillure et qui en fait excède en méchanceté. C'est le verset 20 qui le souligne. 21, pardon. Éviter toute souillure et tout excès de méchanceté. Nous ne parlons pas ici d'une sainte colère, de la colère à l'image de la colère de Dieu qui est sans péché. Sa colère à lui est dirigée contre le péché et n'en est aucunement entachée. Nous ne parlons donc pas de ce que certains appellent la bonne colère, que j'appelle plutôt aussi la colère de Dieu ou la colère selon Dieu. Nous allons plutôt parler de la colère de l'homme, que certains appellent la mauvaise colère. Cette colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle est remplie de souillure et provient de ce qui est souillé, de ce qui salit. Cette colère, la colère de l'homme, n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle est remplie de souillure, provient de ce qui est souillé, ce qui salit. C'est pour ça d'ailleurs que souvent j'encourage dans l'éducation, si les parents corrigent leurs enfants, de ne pas le faire dans la colère. Généralement, c'est une mauvaise colère. C'est en lien avec quelque chose qui nous a dérangé, pas directement avec le péché, souvent. Donc, laissons d'abord la colère et agissons sans cette colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle est remplie de souillure. Le terme souillure est aussi utilisé pour les bouchons qui peuvent se former dans les oreilles. Il y a des bouchons qui se forment dans les oreilles. Le terme souillure qui est utilisé là dans le texte original est le même terme que pour ces bouchons-là. Et en fait, ça peut un peu illustrer le péché qui empêche d'entendre la parole de Dieu. Plus on a de la souillure, plus les oreilles sont bouchées et moins on entend la parole de Dieu. Donc la souillure qui bouche les oreilles et qui nous permet de ne pas entendre. On pourrait dire, plus on est souillé, plus nos oreilles sont bouchées, plus nos colères augmentent. Puisque la parole de Dieu n'a plus d'emprise, ou moins d'emprise sur nous. Et non seulement la colère est liée à la souillure, mais également à l'excès de méchanceté. La colère pousse à l'excès, en fait. Mais qu'est-ce que la colère ? Alors, j'ai ouvert un dictionnaire, le dictionnaire biblique cette fois. Et je vais vous lire ce qu'il dit, c'est intéressant. Généralement, la colère naît chez quelqu'un lorsqu'on menace ce qui a de la valeur pour lui, ce qu'il chérit. La colère se traduit par des paroles de mécontentement, une respiration bruyante et de l'agressivité à l'égard de celui qui offense. La colère est passagère. Elle monte à travers les mots et les gestes, mais elle peut aussi être contenue. Persistante, elle conduit à la haine ou passion dévorante qui aspire à l'anéantissement de l'offenseur. Deux exemples très forts dans la parole de Dieu. Un exemple, c'est Ésaü. Ésaü, lorsqu'il s'est fait piquer sa bénédiction par Jacob, sa colère s'est très vite transformée en haine avec un désir de meurtre. Un deuxième exemple, c'est celui qu'on a lu avec Jonas, qui est une colère qui aspire l'anéantissement de l'offenseur. Les Assyriens étaient des personnes qui avaient fait beaucoup de mal à Israël. Donc Jonas avait une haine face à ce peuple. Et le fait que Dieu fasse grâce à ce peuple était pour lui insupportable. Et sa colère, en fait, est ressortie à ce moment-là. Il s'est fâché. On en a lu une partie du texte tout à l'heure. La colère, vous savez, elle lie un nombre de termes impressionnants. J'ai listé un certain nombre de termes pour nous faire comprendre ce qu'est un peu la colère, quels en sont les synonymes, le prolongement ou les déclencheurs. Alors accrochez-vous, c'est pas fort sympathique, mais c'est peut-être édifiant. On parle de courroux, d'animosité, d'irritation, malveillance, d'intimité, d'agressivité, de haine, emportement, véhémence, ire, rage, exaspération, hostilité, méchanceté, impatience, déchaînement, explosion, cri, irritation, aigreur, indignation, rancœur, rancune, dépit, ressentiment, amertume, antipathie. Enfin, je m'arrête là. Et savez-vous quel est le premier humain décrit comme étant en colère ? Il s'agit de Caïn. Voici ce qui est dit dans Genèse 4, verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu donne un conseil à Caïn ici. Il lui dit, domine sur ton irritation, ne te laisse pas vaincre, ne te laisse pas guider. On pourrait dire, écoute-moi et ne l'écoute pas. N'écoute pas ta colère, écoute-moi. Il donne un conseil ici, domine sur ton irritation, ne la laisse pas te vaincre ou te laisser guider, écoute-moi, ne l'écoute pas. Alors comme nous sommes au début de la Bible, que ce livre que nous avons ici est une révélation progressive, il n'est pas encore dit ici ceci. Dépose ton irritation au pied de la croix. Demande pardon pour tes pensées mauvaises et saisis par la foi l'œuvre de Christ qui te purifie et te permet de te réjouir du sacrifice accepté de ton frère. Et chercher à comprendre pourquoi ton offrande n'a pas été reçue. Comprendre que tu ne recherches pas ce que Dieu aime, mais tu cherches à imposer à Dieu ce que tu aimes. Détourne-toi du mal qui veut tout tourner, que tout tourne autour de toi et laisse Christ prendre les commandes de ta vie. Mais nous sommes après la venue de Jésus-Christ. Donc ce que je viens de vous dire, c'est ce que nous pouvons recevoir et vivre par sa grâce. Pour être libéré. Dans un livre intéressant sur la colère de David Polisson, il dit ceci. La colère de l'homme est souvent bénigne. Frustration, ronchonnement, irritation. Elle est souvent masquée. Pensée critique, agression passive. Elle est parfois enfouie, cachée dans notre conscience, recouverte de plaisanteries, anesthésiée par des distractions, l'activisme ou des psychotropes. Trop souvent, elle est intense. Amertume, hostilité, violence. Ne soyez donc pas surpris si dans la liste des péchés caractéristiques que Paul énumère, plusieurs appartiennent à la famille de la colère dans Galates 5, 19 à 21. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans Galates. Vous connaissez Galates 5, 22 ? Ça vous dit quelque chose ? Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit. Mais juste avant, il y a en fait le fruit de la chair, ou plutôt les œuvres de la chair, comme il est dit dans la parole. 5.19 dit ceci, « Or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, vrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Alors, comme je voulais une fois partager dans un temps de prière où nous prions les uns pour les autres, c'est le livre de David Paulison qui m'a permis de me rendre compte que j'étais beaucoup plus en colère que je ne voulais l'admettre. Lorsqu'il témoigne en disant « la morosité, le retrait défensif, les pensées du jugement, l'irritabilité contenue, l'attitude critique, l'évitement à tout prix des confrontations, l'indifférence face au tort réparable, telles sont les formes moins dramatiques de mes accès de ma colère. » Et cela m'a fait réfléchir, ça m'a touché. Je me suis toujours dit que, puisque je ne crie pas, même quand je suis énervé, généralement je ne crie pas, donc je ne me mets jamais en colère. Mais en fait, j'utilise simplement d'autres moyens pour l'exprimer. La colère de l'homme dont parle Jacques dans notre texte, nous la rencontrons tous. Elle fait partie de nos vies. La colère de l'homme dont parle Jacques ici dans le texte, nous la rencontrons tous, elle fait partie de nous. Et elle a une source en nous, en fait, qui est bonne. C'est la colère contre le mal. La colère contre le mal fait partie de ce que Dieu a mis en nous. Mais elle est souillée par le péché, par le désir que tout tourne autour de nous. Que nous devenions Dieu quelque part, hein, que en fait nous soyons le seigneur de notre petit royaume. Et si quelqu'un essaie d'aller à l'encontre de notre royaume, nous faisons sortir nos fantassins de mauvaise humeur, nos canonniers de l'irritation, nos chevaliers de la critique et parfois même notre aviation de la fureur. C'est quand même étonnant. Pour quelqu'un qui se dit le serviteur d'un autre roi, et que quelqu'un qui fait partie du royaume dans lequel il n'est pas le Seigneur, hein, celui qui confesse être chrétien, est-ce que son souverain lui demanderait d'envoyer ses fantassins, ses canonniers, ses chevaliers, même son aviation de destruction? S'il s'agit d'une colère de l'homme, ce n'est certainement pas le cas. Et la plupart du temps, il s'agit de reconnaître chez soi une tragique prise de pouvoir qui nous fait être le centre du monde, sans toutefois avoir la capacité d'assumer cette responsabilité d'être le maître du monde. En fait, on n'en veut que le pouvoir et le profit possible. Il s'agit aussi de reconnaître que l'autre qui déclenche la colère ou la déverse sur nous est aussi dans un besoin. Et peut-être même en grand danger pour lui-même. Alors le souverain roi, cette fois-ci le vrai roi de nos vies, si nous sommes des frères bien-aimés, et les sœurs en font partie aussi, comme je l'ai déjà expliqué, si notre foi est vivante, ce Seigneur nous ordonnera de faire sortir notre armée de compassion, de patience, de bienveillance, d'amour, de paix, de douceur et de maîtrise de soi. Et tout cela, nous pouvons le puiser en Christ, par la prière et l'écoute de sa parole, ainsi que la repentance de la colère qui nous pousse à faire sortir une autre armée pour notre royaume personnel, qui devrait en fait être laissé au repos, voire même démantelé. La colère humaine est vraiment une mauvaise chose. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, j'aimerais encore vous lire quelques textes tirés des Proverbes qui parlent de la colère que nous avions vu lors des études sur les Proverbes ensemble. Proverbe 14, 17. « Celui qui est prompt à la colère fait des stupidités. Et l'homme qui a de mauvaises pensées s'attire la haine. » Proverbe 22, 24. « Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux, ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu t'habitues à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. » Ou encore ce texte très imagé dans Proverbe 30, verset 33. « Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. » En fait, la colère est à régler le plus vite possible, sinon la pression augmente. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens 4, 26, 27, le meilleur conseil que nous puissions suivre à ce sujet. La colère est à régler le plus vite possible. Parce que sinon, la pression augmente. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens 4, 26-27, le meilleur conseil que nous pouvons suivre à ce sujet. Je vais vous le lire, bien sûr, ce conseil dans Éphésiens. Vous pouvez y regarder avec moi. Enfin, on l'a lu tout à l'heure, mais on va le relire. En gardant un petit doigt dans Jacques, puisque nous y reviendrons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Alors, si le soleil s'est couché et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore demandé pardon pour votre colère, alors premièrement à Dieu, que vous offensez par votre péché, et à ceux qui ont subi les conséquences, n'hésitez pas à contacter les personnes concernées et mettre cela en ordre. Je vous encourage, avant que le soleil se couche, et s'il s'est couché, ben faites-le quand même encore. Combien de personnes sont capables d'envoyer une petite photo d'un truc sympa sur un réseau social encore le soir? C'est énorme! On arrive à envoyer des choses de ce qu'on a fait, mais envoyer un petit mot pour demander pardon. Ou demander de pouvoir s'appeler pour pouvoir régler la situation. Ou bien si on est dans la même maison, on peut se voir, hein, y a pas besoin de s'envoyer de message, c'est aussi possible. Ne vous couchez pas sur une colère. C'est dangereux parce que ça donne accès au diable qui utilisera les péchés non repentis pour nous bloquer, pour nous ralentir dans notre maturité chrétienne, pour nous détourner de Dieu, de son Église et de sa grâce et nous faire croire que nous sommes de nouveau esclaves du péché. Ah, il aime ça, Satan. Et voilà, tu disais qu'en Christ tu n'étais pas esclave, ben voilà, tu es esclave du péché, regarde. Vous savez ce qu'il faut dire là? Menteur. Tu es un menteur, Satan. C'est pas vrai. Je veux me repentir. Et mon sauveur a déjà payé pour moi. Tu n'as aucune emprise sur moi. Christ a payé pour moi. Et j'en repens. Il va me donner la force à mettre les choses en ordre que je dois faire. Il ne faut pas croire à Satan. Vous êtes de nouveau esclaves. Non, Christ a payé. Et c'est en ne réglant pas les choses au coucher du soleil, comme le dit ici l'apôtre Paul, de manière claire par rapport à nos colères, qu'on donne accès au diable et qu'il va utiliser ce genre de choses. Mais nous avons un espoir. Nous pouvons nous repentir et être libérés de ce péché. Christ n'a jamais eu de colère de l'homme souillé et excédant en méchanceté. Jamais. Jésus n'a jamais eu de colère de l'homme souillé et s'y en empêché. Il a eu des colères de Dieu contre le péché et qui manifestaient clairement la justice de Dieu. C'est vrai. Mais la colère de Dieu n'est pas la colère de l'homme. Celle de l'homme est souillée et pousse à l'excès de la méchanceté. La colère de Dieu est pure et pousse, si vous me permettez, à l'excès de la bonté. La colère de Dieu est toujours parfaitement juste et pourtant il est dit qu'il est lent à la colère. Même une colère juste. Donc même dans une colère sainte, Dieu est lent, parce qu'il manifeste ainsi sa compassion, sa grâce, sa bienveillance, sa fidélité. Il supporte beaucoup de choses, même s'il pourrait légitimement se mettre en colère, parce qu'il veut que l'homme se repente. En fait, ne pas se mettre en colère et attendre, c'est pas pour ne pas réagir face au mal. C'est le désir de voir la repentance. C'est ça que Dieu agit. C'est pour ça qu'il est lent à la colère. C'est pas parce qu'il veut pas la justice. C'est parce qu'il veut exercer sa compassion. Alors si Dieu, qui n'a que des colères pures et bonnes, et qu'il est lent à la colère, nous devrions être d'autant plus lents et même abandonner nos colères d'hommes souillés et poussant à l'excès de méchanceté tel que décrit dans Jacques. Et si nous voulons ressembler à notre roi, ce qui est le cas lorsque la foi est vivante, nous serons aussi lents pour des colères justes qui sont tournées contre le péché uniquement et dont on retire rien du tout pour son profit personnel, parce que nous désirons que l'autre se repente. Notre désir premier, c'est pas de déverser la colère. C'est non même pas que Dieu déverse sa colère, c'est qu'il se repente. Bien sûr, justice sera faite, Dieu le fera. Et ça, Romains 12 nous l'explique très bien. Pour ce premier point intitulé « La lenteur de la foi vivante et ce qu'elle rejette », j'aimerais que l'on se souvienne qu'une foi vivante est très lente à la colère. Très, 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 très lente à la colère. Et puis même, tellement lente à la colère humaine qu'elle la vit même plus. Ça, c'est l'idéal que l'on recherche, évidemment. Elle rejette ce qui pollue notre cœur, ce qui souille, tout ce qui nous incite à nous énerver contre les autres et à nous incite à nous donner trop d'importance, qui nous pousse à agir avec méchanceté par nos paroles, nos gestes, nos regards et surtout nos pensées qui guident tout cela. Une foi vivante est lente à parler, lente à la colère, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté. Et les proverbes soulignent plusieurs bienfaits de la lenteur de la colère. Alors là, on a parlé de la colère avant, ici de la lenteur. Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. Ou Proverbe 15, 18. Un homme furieux excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Proverbe 19, 11, que là tout le monde connaît par cœur, on l'a déjà cité plusieurs fois. L'homme qui a du discernement est lent à la colère et il met son honneur à passer sur une offense. Ou encore, Proverbe 25, 15, par la lenteur à la colère, on peut fléchir un prince. En fait, c'est puissant d'être lent à la colère. Mais alors, quand la foi vivante doit être rapide, c'est notre prochain. Parce que là, on a parlé de ce qui doit être lent, être tranquille. Hein. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut être rapide. C'est le deuxième point. La rapidité de la foi vivante est ce qu'elle reçoit. Donc on relit le texte de Jacques 1, 19 à 21. Et vous pouvez déjà regarder, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors, est-ce que vous avez trouvé les éléments où il faut être rapide, prompt, hein, prompt c'est être rapide, et les éléments qu'on a appelés à recevoir? Il faut être prompt à écouter. C'est un peu étonnant, enfin, on va voir ça. Et puis, recevoir la parole. La parole, et il nous parle de sa présence, c'est une parole qui a été plantée quelque part en nous, hein. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Et puis son action qui est décrite au verset 21, qui nous parle du salut de nos âmes. Vous avez sûrement déjà entendu que nous avons deux oreilles et une seule bouche. Vous avez déjà entendu ça? Deux oreilles, une seule bouche. Ce qui signifie que nous devons deux fois plus écouter que parler. C'est bien. Après, deux oreilles, ça permet aussi d'entendre d'une manière différente. Les oreilles, ça permet de l'équilibre. Enfin, il n'y a pas que ça, disons. C'est bien, c'est bien. C'est une bonne idée. Mais Jacques va plus loin ici. Il parle de rapidité et de lenteur. De rapidité et de lenteur. Il ne parle pas simplement de la quantité, mais de la manière. C'est un élément important ici. La rapidité, c'est ce que l'on fait dès que possible. C'est ce que l'on recherche. C'est le premier réflexe. C'est l'empressement qu'on y met par intérêt. Ce que Jacques souligne de la foi vivante ici, en fait, est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. On a plutôt l'image de celui qui cherche à placer un mot dès que possible, d'arriver à placer un bon argument en premier. Parler est une action qui demande de la rapidité pour être entendu. Alors que l'écoute est plutôt vue comme quelque chose de passif. Quelque chose qui est certes présent, mais qui n'influence pas les autres, qui ne permet pas de s'affirmer, qui ne permet pas de prendre les devants, de montrer la voie. N'est-ce pas ce qu'un chrétien devrait faire, un chrétien qui a une foi vivante? Montrer la voie, s'affirmer. Jean ne dit pas qu'un chrétien doit rester muet. Il dit qu'il doit être prompt à écouter. Un peu comme si on disait: le premier qui a tout entendu et compris lève la main. Et non pas: le premier qui prendra la parole nous expliquera ce qui a été dit. Parce qu'en fait, dans la deuxième situation, quand on dit le premier qui prend la parole, eh bien, souvent, il la prend avant que l'explication soit terminée. Puis là, c'est très dommage, parce que dans ce cas, par exemple, cet exemple ici, eh bien, la clé de la compréhension, elle est donnée à la fin, et ça change le sens du début. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Quelqu'un est en train de vous dire quelque chose, puis vous, vous avez déjà fait tout le cheminement, hop, vous entrez dedans, et vous dites, ah ben voilà ce que je pense. Puis la personne dit, attends, il termine sa phrase, puis vous sentez tellement bête. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ben, si vous aviez écouté jusqu'au bout, vous n'auriez pas du tout dit ce que vous auriez dit. Combien de fois j'ai manqué de suivre ce magnifique conseil de Jacques, d'être prompt à l'écoute. Ce qui signifie pas écouter le plus vite possible, dès qu'on a compris, on réagit. Non, c'est pas ça, prompt à écouter. C'est être rapide à commencer à écouter. Dès que j'entends, j'écoute et j'écoute tout du long. Nous pourrions aussi parler de l'écoute active. Hein, quand on fait de la communication, on parle de l'écoute active. Je vais juste vous donner quelques éléments. Laisser parler, montrer de l'intérêt, chercher à comprendre, donc reformuler au besoin, être patient et se concentrer sur celui qui parle, rester calme, ne pas juger, c'est-à-dire ne pas mettre mon jugement de valeur sur ce que l'on dit avant d'avoir terminé de discuter ensemble, tellement important, poser des questions pour encore mieux comprendre, maintenir l'attention et éviter de faire plusieurs choses à la fois. Moi, je trouve que ce n'est pas facile, l'écoute active, je vous dis tout de suite. Mais quand Jacques dit que l'on soit prompt à écouter, je n'ai aucun problème à penser que tous les éléments que je viens de vous donner faisaient partie de cette injonction prompt à écouter. Et Jésus-Christ est un exemple fabuleux de sa manière de réagir. Et Jésus écoutait d'une manière active. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait ? Il restait muet. Mais non ! Pour ça, Jacques, il ne dit pas qu'il faut se taire. Il dit qu'il faut être prompt à écouter. Et lent à parler. Ça donne le temps d'écouter avant de parler. Alors, un petit exercice qui sera difficile pour moi, mais je nous le propose quand même, c'est d'attendre que l'autre a terminé ce qu'il voulait nous dire avant de répondre et d'avoir vérifié si on a tout compris durant la semaine qui vient. Ah, c'est un défi, hein? Mais on va le faire en pensant à notre Seigneur Jésus-Christ, comment lui, il agit envers nous. Parce que c'est là qu'on va aller poser nos fondements. Hein? Donc, c'est d'attendre que l'autre a terminé ce qu'il venait nous dire avant de répondre, en ayant vérifié si on a bien compris. Alors, je vous assure que c'est plus facile à la fin du culte de nos discussions. Donc, c'est un bon moment de s'exercer. Franchement, là, exercez-vous à fond. Hein, parce que c'est un très bon moment. Et puis ensuite, vous aurez l'étape supérieure quand vous arriverez à la maison. Hein, où là, ben, on pourra continuer à s'exercer, mais où souvent, c'est moins facile. Parce qu'on a l'impression déjà d'avoir tout compris ce que l'autre nous a dit. Ou enfin, etc. Hein. Prompt à écouter. Que Dieu nous vienne en aide, lui qui le fait à la perfection. Et c'est tellement bon, ça. Vous savez que quand vous vous mettez devant Dieu et que vous commencez à prier, qu'est-ce qu'il fait ? Vous pouvez prendre tous les points de l'écoute active, c'est exactement ce qu'il fait. Il est là, concentré, pour nous écouter, et ensuite pour nous répondre aussi, évidemment. Écouter. Est-ce qu'il faut tout écouter ? Oui, non ? Il faut des preuves bibliques. Hein. Eh bien, Paul nous dit dans Éphésiens 5, versets 3 et 4, qu'il y a des choses qui ne doivent pas être mentionnées parmi nous. Donc si quelque chose ne doit pas être mentionné, ça ne doit pas être écouté non plus. Donc il y a des choses évidemment qui ne sont pas à mentionner. Il y a l'explication de péché, la description de péché particulier, etc. ne sont pas des choses à mentionner. Ça nous fait même réfléchir par rapport au témoignage qu'on peut donner. Souvent on développe des choses, mais dans quel but ? Notre but c'est de montrer ce que Dieu fait, pas ce que nous faisons de mal. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, 3 et 4, nous dit que des choses ne doivent pas être mentionnées, donc pas écoutées non plus. Ce qu'il faut recevoir avec tant d'empressement, en fait, Jacques, il le souligne. Ici, j'ai développé cette notion dans les relations, et c'est important. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que Jacques, il parle encore d'autre chose ici. Ce que je vous ai dit est juste et peut découler de ce texte. Mais ce n'est pas la première chose. La première chose, qu'est-ce qu'il faut écouter avec tant d'empressement? C'est le verset 21 qui nous dit ça. Hein? Donc, écoutez, prompt à écouter. Et puis, verset 21, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, recevoir avec empressement ce que veut vous dire votre conjoint, vos parents, vos enfants, votre voisin, vos collègues, c'est bien. C'est bien. Mais le plus grand empressement devrait être celui d'écouter la parole de Dieu. Alors, on comprend des fois mieux quand on parle des relations ce que ça signifie, mais l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure, je vous invite à l'exercer aussi de la priorité proposée par Jacques, recevant avec douceur la parole dès le matin. Lorsque nous ouvrons la Bible, soyons prompts à écouter. Avec une écoute active, montrant de l'intérêt, cherchant à comprendre, posant des questions, maintenant l'intérêt jusqu'à la fin. Que nous vivons la priorité proposée par Jacques, recevant avec douceur la parole dès le matin. Lorsque nous ouvrons la Bible, soyons prompts à écouter, montrant de l'intérêt, cherchant à comprendre, posant des questions, et maintenant l'intérêt jusqu'à la fin. Parce que cette parole a été plantée telle une semence en nous, en tous ceux qui sont en Christ. C'est comme une semence qui pousse, comme le souligne Pierre aussi. Après Jacques, il y a un Pierre. Vous avez déjà vu dans la Bible? Et puis, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans ces deux épîtres, parce qu'ils ont une base commune. Et dans 1 Pierre 1, 22, il est dit ceci. « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance de la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. » La semence comme étant la parole, cela fait penser à la parabole que Jésus a racontée concernant le semeur de la parole de Dieu, hein, qui sème, et puis il y a de la semence qui tombe dans la bonne terre et qui produit du fruit. Ici, Jacques parle de salut. Cette parole en nous peut sauver notre âme. Elle poussera sur le sol de la foi vivante. Si la foi est morte, il n'y aura pas de salut. Il n'y aura pas de salut. Il pourrait y avoir autant de semences que vous voulez, elle ne poussera pas. Si vous ne me croyez pas, prenez une fois un grand sac de semences et ensemencez le parking ici, et puis vous verrez ce qui pousse. Rien. Je ne dis pas à côté de l'arbre dans la terre, hein, je dis sur le parking, sur le goudron, évidemment. Rien. Rien ne pousse sur le chemin, sur le sol pierreux, ou même sur le sol rempli de ronces, selon la parabole. Lire beaucoup la Bible ne vous sauvera pas, même l'apprendre par cœur. C'est bien, hein, donc je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, mais ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est lorsque ce qui est écrit dans la Bible transforme votre vie et que vous recevez son enseignement sur la patience, la douceur, la grâce, la paix, la bienveillance, la bonté, la joie, l'amour, la persévérance, l'hospitalité, l'empathie, le service et tant d'autres choses à l'opposé de la colère de l'homme. Celui qui lit la Bible mais qui est rongé par la colère devrait peut-être s'arrêter de lire un instant et se repentir de son péché. C'est important ça. Celui qui lit sa Bible mais est rongé par la colère doit s'arrêter un instant et se repentir. C'est pas en lisant la Bible que ça va vous nettoyer. Hein. Pourtant c'est là qu'il y a les paroles de vie, c'est vrai. Et j'encourage à le lire, je suis pas en train de vous décourager de lire la Bible. Je suis en train de vous dire que si vous lisez la Bible et que vous ne la mettez pas en pratique, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc celui qui est rongé par la colère cherche la repentance. Demande pardon à ceux qui ont subi sa colère, qu'elle soit chaude, explosive ou froide, dormante. Car la parole, lorsqu'elle est plantée, que la foi est vivante, elle pousse et produit du fruit et nous fait devenir petit à petit différents de celui qui n'a pas la parole en lui. Celui qui dit être chrétien et que sa colère ne diminue pas, peut-il vraiment dire qu'il est chrétien? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a plus, j'aimerais bien, mais ça, c'est pas sur cette terre. Mais s'il n'y a aucune diminution, aucun changement, peut-il dire qu'il est chrétien? Le Saint-Esprit nous transforme, mes chers frères et sœurs. Nous ne devenons pas meilleurs par nous-mêmes, c'est vrai, ou en nous-mêmes, mais en Christ et par Christ. Mon voisin me disait hier soir, et d'un coup il est venu sonner chez moi, puis on a une petite discussion, et puis il me disait qu'il avait une collègue au travail qui ressemble à Marlise dans son attitude, dans sa manière d'être, et tout le monde voit qu'elle est différente, cette collègue, et qu'elle est chrétienne par sa douceur, sa bienveillance envers les autres. Fantastique ça! Ce serait merveilleux en fait que tous nos voisins, nos collègues puissent dire de nous « Je vois qu'elle est différente. Sa colère ne se manifeste pas autant que les autres. Et si ça arrive, il y a un mot d'excuse, une recherche de rétablissement, un désir de bonté, tout en reconnaissant sa faute, sans la cacher, mais en cherchant à régler ce qui est possible. » Ben, je prie que ce soit le cas pour tous ceux qui sont en Christ. Ce point intitulé « La rapidité de la foi vivante et ce qu'elle reçoit », j'ai tenté de nous encourager à être rapides à l'écoute, premièrement de la parole de Dieu que l'on reçoit, et ainsi être rapides à l'écoute de ceux contre qui on se mettrait facilement en colère. L'écoute de la parole de Dieu et sa réception dans la douceur nous aidera à être lents à parler, non pas pour ne rien dire, mais pour dire des paroles encourageantes, selon le verset biblique de la communication par excellence. Vous le connaissez? Vous connaissez le verset biblique de la communication verbale par excellence? C'est dans Éphésiens. Alors ouvrez vos Bibles. Éphésiens 4, verset 29. Si vous voulez faire un cours de communication, eh bien, arrêtez-vous un moment. Prenez une, deux heures, trois heures, un jour de calme, peut-être même de silence, pourquoi pas, et de méditer ce texte où il est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Mais que le Seigneur permette que cette parole pénètre dans nos vies et que plus en plus nous puissions la vivre, que nous soyons lents à la colère à l'image de Dieu, sans colère de l'homme et exprimant la colère selon Dieu, ayant d'abord épuisé toute compassion et toute patience. En conclusion, j'aimerais relire Jacques 1, 19 à 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Est-ce que ce texte, à la fin de cette prédication, résonne un peu différemment, un peu plus profondément dans vos cœurs? Je l'espère. Jésus a pris nos colères d'hommes sur la croix, car il a payé le prix de nos péchés à notre place. N'hésitons pas à nous repentir de nos colères, même simplement manifestées par de l'irritation, même que personne ne voit. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller dire à l'autre « J'étais irrité contre toi » alors qu'il n'a rien vu. Ça va lui faire du mal. Demandez pardon à Dieu. Généralement, quand on est irrité face à quelqu'un, il le voit ou il le ressent ou il l'entend. Donc là, il faut lui demander pardon. Évitons toute souillure, tout ce qui peut nous mettre au centre de nos pensées, à la place de Jésus-Christ, même des choses légitimes, comme la santé, la famille, le travail, qui prennent la place de notre roi et qui deviennent, à ce moment-là, des souillures qui nous amènent à la colère. Parce que si je ne peux pas soigner ma santé parce que tu me déranges, la colère. Si je ne peux pas soigner ma famille ou prendre soin de ma famille comme je le veux parce que tu me déranges, la colère, etc. Vous voyez, même des bonnes choses peuvent devenir mauvaises lorsqu'elles prennent la place de Dieu. Et recevons avec douceur la parole de Dieu. Aimons-la, méditons-la, partageons-la, mémorisons-la et réjouissons-nous de vivre notre foi qui sauvera notre âme. Une foi qui nous encourage et qui nous engage à nous détacher de la colère de l'homme. Soyons lents à la colère, tellement lents que cela n'arrivera que très rarement et que des colères selon Dieu, grâce à l'œuvre de Christ en nous, puissent être manifestées pour sa gloire et le bien de ceux qui sont autour de nous. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que ce texte de Jacques nous pousse à nous tourner vers toi. Ce texte de Jacques nous pousse à nous rendre compte que nous avons besoin de toi. Et nous avons un modèle en toi qui est juste fabuleux, extraordinaire. Toi le Seigneur des Seigneurs. Toi celui qui depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant n'a que manifesté des colères qui étaient justes et tellement souvent contenues, retenues pour que ton peuple, pour que même d'autres peuples puissent se repentir, se détourner de leurs péchés. Seigneur, nous voulons aussi te dire merci parce que Jésus-Christ a pris sur lui la colère qui nous était destinée. Seigneur, nous sommes ce matin dans une situation où nous ne pouvons que reconnaître qu'il serait juste que nous soyons jugés, que même ta colère juste soit déclenchée vis-à-vis de nous. Et nous te demandons pardon pour toutes ces colères que nous avons parce que nous nous sommes mis comme roi, comme seigneur de notre vie, parce que les autres ne font pas exactement ce que nous voulons, parce que les autres conducteurs dans le trafic ne réagissent pas exactement comme on le veut, parce que tout à coup le trafic ralentit, parce que l'un a plus de peine à avancer. Seigneur, tout ça nous montre que nous tenons tellement encore à notre propre royaume. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de recevoir ta parole avec douceur et de devenir de vrais serviteurs, de faire partie vraiment de ton royaume et que ce soit toi qui nous donne l'ordre d'envoyer des soldats pour combattre. Et nous savons que ces soldats que tu nous envoies à combattre autour de nous, eh bien, s'appellent la compassion, la bienveillance, l'amour. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de le vivre avec ce désir de sainteté. Nous désirons, Seigneur, entrer dans ce cheminement. Nous savons que tu aimes la justice, nous la voulons également. Donne-nous, Seigneur, de la vivre, de la présenter, d'être plein de grâce et de cheminer d'une manière qui t'honore. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta sagesse. Et je te remercie pour chacun ici. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, à être prompt à écouter et lent à parler et lent à la colère. Dans le bon nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.